Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCG en ce lundi 16 juin, une édition spéciale à nouveau consacrée à ce quatrième jour de confrontation entre la République islamique d'Iran et Israël, alors qu'une salve de missiles iraniens a encore touché le centre d'Israël cette nuit. On dénombre pour l'instant 18 victimes israéliennes depuis vendredi. Il est 8h sur RCG.
La matinale info, Elsa Parienté.
Et au programme de cette édition, l'analyse de l'actualité israélienne, bien sûr, et ce sera avec notre correspondante sur place, Cathy Besraor.
Nouveau bilan meurtrier pour cette troisième nuit de tirs de missiles balistiques iraniens contre le nord et le centre d'Israël. Trois Israéliens ont été tués à Petah Tikva. Il y a également une centaine de blessés, dont un enfant dans un état très grave.
Puis l'invité de la matinale, Sarah Sialom, avocate spécialiste en droit international. On fait tout de suite un tour d'horizon de l'actualité sur RCJ.
Le journal.
Au moins 5 personnes ont été tuées cette nuit lors d'une frappe massive de missiles iraniens contre Israël. À Petah Tikva, 3 septuagénaires sont morts dans un immeuble résidentiel. Un autre corps a été retrouvé dans les décombres d'un immeuble touché par un missile et un octogénaire a également succombé à Bnei Brak. On en parlera plus en détail dans un instant avec Cathy Besraor. Les forces de défense d'Israël sont en train de frapper des sites de missiles sol-sol dans le centre de l'Iran. Nous agissons contre cette menace depuis notre espace aérien et depuis l'espace aérien iranien, a déclaré sur X, un porte-parole de l'armée israélienne. À noter, l'armée israélienne qui a annoncé que plus de 100 drones lancés depuis l'Iran ont été interceptés par l'armée de l'air et la marine israélienne depuis le début de l'opération contre les installations nucléaires de la République islamique d'Iran. Et Téhéran qui a annoncé hier la mort du chef du renseignement des gardiens de la Révolution, et ce après l'élimination des 2 plus hauts gradés du pays et de 9 scientifiques du programme nucléaire plus tôt dans le week-end. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a annoncé que 5 des personnes tuées lors de l'attaque directe de Batiam dans la nuit de samedi à dimanche étaient des citoyens ukrainiens. C'est ce qu'a rapporté le New York Times. Selon ce rapport, l'Ukraine travaille en étroite collaboration avec la police israélienne pour établir l'identité des victimes et organiser le rapatriement des corps dans leur pays d'origine. Les frappes israéliennes menées depuis vendredi contre les installations nucléaires et militaires de la République islamique d'Iran auraient fait au moins 224 morts et plus d'un millier de blessés. C'est ce qu'a annoncé le ministère iranien de la Santé. Je le cite, après 65 heures d'agression du régime sioniste, 224 femmes, hommes et enfants sont morts en martyr. C'est ce qu'ils ont écrit sur X, le porte-parole du ministère, précisant que plus de 90% des victimes sont des civils. Ces chiffres qui, on le rappelle, sont ceux de la République islamique d'Iran et n'ont évidemment pas été vérifiés de sources indépendantes. La France n'a participé à aucune opération défensive d'Israël face à la riposte iranienne car elle n'a pas été sollicitée. C'est ce qu'a souligné hier Emmanuel Macron. On l'écoute.
La France était préoccupée par la prolifération nucléaire, par le rapport qui avait été fait par l'AIEA et les activités nucléaires en cours de l'Iran. Et que celle-ci constituer une menace très claire, existentielle pour Israël, compte tenu de ce que le régime iranien énonce chaque jour, mais une menace pour toute la région et même pour nous-mêmes. Car à la fois le programme activity, le programme balistique et le programme nucléaire iranien sont des menaces. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai cautionné quoi que ce soit. Et j'ai d'ailleurs très clairement indiqué que la France n'avait pas participé aux opérations qui ont été menées le 13 juin dernier et dans les jours qui ont suivi.
Emmanuel Macron, qui a exprimé par ailleurs son désaccord avec la possibilité que le président russe Vladimir Poutine puisse jouer un rôle de médiateur dans le conflit entre Israël et l'Iran, comme suggéré par Donald Trump. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé avoir dit au Premier ministre israélien lors d'un appel téléphonique hier que la diplomatie était la meilleure solution à long terme avec l'Iran. Ursula von der Leyen, qui n'a toutefois pas appelé à un cessez-le-feu immédiat, précisant que l'Iran ne devrait évidemment pas avoir d'armes nucléaires. La chef de la diplomatie de l'Union européenne a quant à elle convoqué pour demain une réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères des 27 consacrée au conflit entre Israël et la République islamique d'Iran. Le lieutenant-colonel réserviste Aviv Atsili, 49 ans, a été identifié comme la seconde dépouille récupérée lors de l'opération de sauvetage menée la semaine dernière à Khan Younes dans la bande de Gaza par l'armée israélienne et le Shin Bet. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a déclaré hier soir avoir identifié une ouverture à propos des otages retenus dans la bande de Gaza par les terroristes du Hamas. J'ai donné instruction avant-hier de faire progresser les négociations car j'ai identifié une ouverture. Je ne renonce à personne, affirme Benjamin Netanyahou dans une vidéo diffusée par son bureau. Dans une interview à la chaîne américaine Fox News, le Premier ministre israélien a fait référence un peu plus tard à la proposition de l'envoyé spécial du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, prévoyant un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza au cours duquel la moitié des otages seraient libérés immédiatement. La police israélienne a arrêté deux Israéliens soupçonnés d'avoir exécuté des missions pour les Iraniens ces derniers jours alors que le pays est en pleine guerre avec l'Iran. C'est ce qu'indique un communiqué de la police et du Shin Bet. Ces deux citoyens juifs sont soupçonnés d'avoir commis une infraction à la sécurité sous la direction des services de renseignement iraniens en pleine campagne militaire contre l'Iran alors que celui-ci tire sur des zones densément peuplées et des sites stratégiques en Israël. Nous constatons les dangers concrets de collaboration avec l'ennemi iranien qui exploite les informations transmises par ces citoyens pour nuire à Israël. Fin de citation. Et enfin, une dizaine de militants issus de la société civile, dont la comédienne française Corinne Maziero, se sont élancés hier depuis Paris. Derrière la banderole Gaza, stop génocide. L'Europe doit agir pour allier Bruxelles et exiger des autorités européennes des sanctions contre Israël. La Ligue des droits de l'homme est co-organisatrice de l'initiative aux côtés notamment de la CGT et de la Fédération internationale pour les droits humains. 8h06 sur RCJ, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. L'actualité en Israël, ce sera avec notre correspondante sur place, Cathy Bisraor.
Et si cet été, vous faisiez la plus belle des choses, offrir un été à ceux qui n'en ont pas? Un enfant qui découvre la mer pour la première fois. Une personne âgée qui découvre des visages, des voix, de la chaleur humaine. Une maman seule, soulagée de savoir qu'on pense à elle. Un ado en situation de handicap, accueilli dans un centre adapté. Avec le FSJU, chaque don transforme leur été. Un été pour eux, un été pour donner. Donnez sur fsju.org. FSJU, votre cœur a toujours raison.
Message de Horte France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Horte France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants.
Votre contribution fait la différence. Dès le 27 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Horte France.
Une question? Appelez-nous au 01 44 17 30 80 ou rendez-vous sur horte-france.fr.
ORT-France.fr.
Merci pour votre engagement.
Du coup, je pense que je vais chanter...
Non mais attention, c'est moi l'attention, c'est pas la démocratie, c'est une dictature ici, c'est moi qui décide.
Rire pour changer des vies. Prenez vite vos places pour une soirée exceptionnelle proposée par le FSJU. Samuel Bambi et Friends, avec notamment Samuel Bambi, Fancy Cohan et Vincent Serroussi. Mercredi 18 juin à 20h, Espace Rachi. Un événement solidaire au profit des colonies de vacances pour enfants défavorisés, soutenu par les tickets vacances du FSJU. Billets sur billetsweb.fr. Bambi, Paris.
Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
Bain et déco.
Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
Bain et déco.
Et si c'était le moment de changer? Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
Bainetdeco.fr.
8h08 sur RCJ, on prend la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante sur place, Cathy Bisraor. Cathy, bonjour.
Bonjour, Elsa.
Et on commence avec le bilan de la dernière nuit et cette attaque iranienne à nouveau massive sur le centre d'Israël notamment.
Absolument, un bilan qui vient de s'alourdir dans cette troisième nuit d'attaque de missiles balistiques iraniens contre des centres civils israéliens au centre et à Haïfa. 5 personnes ont été tuées, 4 à Petah Tikva et une personne à Bnei Brak. En tout, il y a eu près d'une quarantaine de missiles balistiques qui ont été tirés sur le territoire israélien. La plupart ont été pulvérisés et éliminés par l'ensemble de la défense aérienne israélienne et également apparemment avec l'aide d'une partie de la défense aérienne américaine, mais 4 missiles balistiques ont réussi à toucher le territoire israélien. Donc un à Tel Aviv où il y a eu seulement des blessés et les deux autres à Bnei Brak et à Petah Tikva. À Bnei Brak, un homme de 80 ans a été tué. Il y a là également plusieurs blessés. Et à Petah Tikva, il y a quatre personnes qui ont été tuées. Trois de ces quatre personnes de Petah Tikva se trouvaient dans les chambres étanches. C'est la première fois qu'il y a des personnes qui se trouvaient dans les chambres étanches qui ont été tués ou même blessées. Il n'y avait pas eu de blessés graves jusqu'à présent des personnes qui se trouvaient dans les chambres étanches. La raison, c'est que le missile balistique a touché de plein fouet le quatrième étage de cet immeuble de près de 15 étages. Et vu que le coup a été tiré directement sur ce quatrième étage, la chambre étanche n'a pas réussi à protéger ses habitants. Il y a également une quatrième zone de tir, c'est à Haïfa, cette fois dans la zone industrielle, dans la zone de Haïfa, une zone industrielle. Actuellement, il y a trois personnes qui sont toujours bloquées dans les débris de cette usine qui a été touchée. Pour l'instant, les secours n'arrivent pas à les sortir de cette zone-là et des efforts énormes sont faits pour arriver à les sauver. En tout, donc, 5 personnes ont été tuées. Il y a 95 blessés, la plupart dans un état léger, mais il y a 2 personnes dans un état grave, dont un enfant de 10 ans. C'est le bilan de cette troisième nuit de tir de missiles balistiques sur Israël.
Cathy, on n'a évidemment pas de visibilité sur la durée de cette opération israélienne, mais au vu des frappes opérées par Tsahal, est-ce que l'Iran peut encore tenir longtemps la confrontation ? Est-ce que ces frappes israéliennes ont bien affaibli pour l'instant les capacités iraniennes ?
Je crois qu'il faut dire 2 choses sur votre question. La première chose, c'est qu'il faut se rappeler que l'Iran, c'est un pays qui est beaucoup plus grand qu'Israël, avec une profondeur stratégique très importante, 100 millions d'habitants, un territoire énorme. On se rappelle que dans la guerre Iran-Irak, l'Iran a tenu le coup, hein, si on peut dire rapidement, pendant très, très longtemps, et réussi. C'est un pays avec une autorité terroriste qui peut en fait permettre de continuer à mener ce type d'opération et en prenant sur sa population. Il faut se rappeler cela. Et donc, pour l'instant, l'Iran, il n'est pas question que l'Iran s'écroule. C'est pas le schéma du tout qui est même prévu par Israël. Même la chute immédiate du régime iranien n'est pas un des scénarios qui a été pris en cause par les autorités israéliennes. Netanyahou l'a dit lui-même, il est possible que à court terme ou à moyen terme, il y a des conséquences sur la viabilité du régime, mais pas en tout cas pour le très court terme. Maintenant, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est clair que l'Iran est sous le choc. Il y a là une supériorité, je crois que ce n'est pas très c'est très clair de le voir, chacun peut le voir dans le monde entier d'ailleurs, pas seulement du côté israélien, une supériorité non seulement militaire et technologique israélienne impressionnante. Même en Israël, on dit que les succès de l'opération israélienne sont beaucoup plus importants que ce que même Israël avait prévu. Et surtout, je crois que ce qui impressionne et qui inquiète énormément les autorités israéliennes et iraniennes, c'est la pénétration du régime militaire et politique iranien par le Mossad, par les services israéliens. Il faut se rappeler, le premier jour, toute la direction militaire de l'Iran a été éliminée. Hier, 5 explosions au cœur de Téhéran, avec apparemment 5 scientifiques de très haut rang directement impliqués dans le nucléaire iranien qui ont été éliminés de toute évidence, évidemment, par Israël. Tout ceci, ça prouve une pénétration énorme du régime iranien. Ce n'est que le début, on n'est qu'à 3 jours de cette guerre. Et donc, il est clair qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, non seulement au niveau du régime iranien, mais également de la population iranienne. On peut le voir d'ailleurs, toutes ces voitures et toutes ces populations qui tentent de fuir actuellement Téhéran. Et pour conclure, ce que l'on dit en Israël, c'est qu'il s'agit de tout début d'une guerre. Que le temps, que ce n'est pas une histoire de quelques jours, une histoire au moins de quelques semaines, et qu'il faudra donc beaucoup de patience, aussi bien du régime d'Israël, mais également de la population israélienne pour continuer à faire face à cette guerre et à la réussir. Car comme dit Benjamin Netanyahou, il s'agit d'une guerre existentielle, dit le Premier ministre. Et si je peux vous dire l'impression de tous les Israéliens aujourd'hui, c'est véritablement qu'il s'agit cette fois-ci vraiment d'une guerre existentielle.
Merci beaucoup Cathy Bisraer pour toutes ces explications. 8h14, 8h15 sur RCJ. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. L'invité de la matinale, Sarah Sialom, avocate et spécialiste en droit international.
Du coup, je pense que je vais chanter...
Non mais attention, c'est moi l'attention, hein. c'est pas la démocratie, c'est une dictature ici, c'est moi qui décide. Hein.
Rire pour changer des vies. Prenez vite vos places pour une soirée exceptionnelle proposée par le FSJU. Samuel Bambi et Friends, avec notamment Samuel Bambi, Fancy Cohan et Vincent Serroussi. Mercredi 18 juin à 20h, Espace Rachi. Un événement solidaire au profit des colonies de vacances pour enfants défavorisés, soutenu par les tickets vacances du FSJU. Billets sur billetsweb.fr. Bambi, Paris.
Message de Hort France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Hort France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants.
Votre contribution fait la différence. Dès le 27 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Hort France.
Une question? Appelez-nous au 01 44 17 30 80 ou rendez-vous sur hort-france.fr.
ORT-France.fr.
Merci. Merci pour votre engagement.
8h16 sur RCJ, l'invité de cette édition, Sarah Sialom, avocate et spécialiste en droit international. Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RCJ. On va commencer par tout ce qu'on entend beaucoup sur les plateaux, notamment sur la qualification de l'opération israélienne. On entend que ce serait une opération donc préventive, illégale, qu'Israël n'avait pas à frapper l'Iran, que c'est contraire au droit international. C'est pas ce que vous dites. Est-ce que vous pensez, Sarah Sialom?
Non, pas du tout. Il faut savoir qu'il y a plusieurs normes en droit international. Il y a bien sûr les textes, et c'est souvent la Charte des Nations Unies dont on parle, comme quoi cette action serait une violation de son article 51 qui ne permet une légitime défense que lorsque la menace est réalisée. Mais il y a une autre source du droit qu'on appelle le droit coutumier, c'est-à-dire un ensemble de règles auxquelles les États presque d'eux-mêmes se soumettent. Et en droit coutumier, il y a une affaire très célèbre qui s'appelle l'affaire Caroline, qui date des années 1830. Au cours de laquelle on a estimé que lorsqu'une menace était sérieusement caractérisée, on pouvait, dans le cadre de ce qu'on appelle une défense anticipée, avoir recours à la force armée. Alors bien sûr, les conditions sont extrêmement restrictives, mais elles existent. C'est-à-dire que une opération armée en amont d'une agression, on va dire, consommée matériellement, n'est pas nécessairement illicite. Cette affaire dite de Caroline, elle a été reconnue par la Cour internationale de justice, c'est l'affaire Nicaragua contre les États-Unis, qui vient lui donner, outre son statut de droit coutumier, une valeur jurisprudentielle. Lorsqu'on regarde ces critères qui ont donc été repris par la Cour internationale de justice, il s'agit véritablement d'un péril qu'on ne saurait ignorer, qui est tellement en fait caractérisé qu'on peut presque l'assimiler à une agression pleinement réalisée. Et au regard de ces critères et de ce qu'on sait aujourd'hui, l'opération militaire israélienne est presque un cas d'école du test de Caroline.
Par ailleurs, c'est vrai qu'on entend beaucoup que ce sont des frappes préventives, que c'est une opération lancée par l'armée israélienne. On ne peut pas du tout considérer que c'est une réponse israélienne en réalité aux nombreux tirs du Hamas, du Hezbollah et des Houthis qui sont les proxys de l'Iran et qui tirent sur Israël de façon quasi ininterrompue depuis maintenant près de 2 ans.
Oui, bien sûr, ça pourrait être un cas de casus belli, c'est-à-dire un cas de guerre au regard notamment des liens qu'on connaît entre l'Iran et ses différents proxys. Mais même indépendamment de ça, parce que cela suppose la démonstration de liens qui, bien qu'ils soient connus, est plus difficile à rapporter, même indépendamment de ça, l'action militaire israélienne est parfaitement caractérisée. Et notamment, c'est assez intéressant et ça a été assez peu évoqué, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui donc était l'agence en charge un peu de surveiller l'Iran par rapport à son programme nucléaire, a voté une résolution le jeudi 12, donc juste avant l'opération militaire israélienne, disant et actant le fait que l'Iran ne respecte absolument pas ses engagements au titre des conventions auxquelles il est parti. C'est-à-dire que le constat d'un Iran qui ne respecte absolument pas les engagements qui sont les siens, ce n'est pas seulement une perception complètement unilatérale d'Israël, c'est l'Agence international de l'énergie atomique qui a voté cette résolution. Et c'est assez important de le noter parce que on a souvent dit qu'Israël était dans un cas un peu comme les États-Unis avec l'Irak. Absolument pas. La France avait aussi averti les États-Unis que l'Iran ne cherchait qu'à gagner du temps. Et donc, lorsqu'on regarde finalement les critères aujourd'hui du droit international qui sont qu'une défense doit être immédiatement nécessaire, écrasante, sans autre choix de moyens et sans délai pour délibérer, on est très clairement dans ce cadre-là.
On entend bien sûr beaucoup parler de la qualification de cette opération israélienne, mais il y a quelque chose qu'on n'entend pas, c'est quid de ce que fait l'Iran qui, pour le coup, vise délibérément des civils depuis maintenant 4 jours.
Tout à fait, et il semblerait, ce sont des informations qui ont pu sortir dans la presse israélienne, que l'appareil étatique iranien souhaitait viser des civils. De toute manière, il faut savoir que, outre le principe de proportionnalité, dans une frappe, un État doit respecter le principe de distinction, c'est-à-dire que la frappe doit être proportionnelle entre les objectifs militaires attendus et les moyens employés. On a du mal à comprendre quels sont les objectifs militaires dans les zones d'Israël les plus densément peuplées, quand ce n'est pas l'intégralité du pays qui est visée, mais aussi ce principe de distinction. Quand on lance même 10, 50 missiles balistiques avec une puissance qui est, et les dégâts d'ailleurs en Israël le démontrent assez bien, comment est-ce qu'un seul impact direct peut raser un quartier résidentiel ? Il est évident qu'on ne respecte absolument pas ni le principe de distinction ni le principe de proportionnalité et que ces frappes caractérisent à minima un crime de guerre. Et je pense qu'on peut sérieusement se poser la question du crime contre l'humanité.
Vous constatez, on en avait déjà parlé à propos de ce qui se passe à Gaza, mais une utilisation dans le discours un peu vicié du droit international et typiquement sur la République islamique d'Iran. C'est pas comme si cet étendard avait été beaucoup brandi, alors qu'on connaît bien sûr toutes les violations des droits de l'homme qui sont légion en Iran depuis de nombreuses années maintenant.
Oui, et puis je pense qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a une sorte, alors les Anglais parlent de weaponization, c'est d'utiliser le droit comme une arme. C'est-à-dire qu'à la base, le droit a été utilisé pour régir les relations entre États et éviter notamment que la guerre survienne. Aujourd'hui, le droit est utilisé comme un outil contre Israël pour justement venir lui enlever sa légitimité qui serait la sienne. Et c'est véritablement problématique parce qu'aujourd'hui, on peut entendre des personnes dire que oui, mais finalement, les frappes iraniennes, elles seraient conformes au droit international, alors que véritablement, il y a assez peu de doutes quand on regarde rien que le fait que l'intégralité du pays a été visée. On ne peut pas considérer que l'intégralité d'un État est un objectif militaire, surtout quand il fait une certaine taille comme Israël. Et concernant cette guerre, c'est que soit c'est simplement une méconnaissance des normes du droit international et notamment du droit des conflits armés, mais j'en doute pour vis-à-vis de certaines personnes qui simplement ont décidé que peu importe ce que ferait Israël, peu importe à quel point Israël se soumettrait au droit international, par définition, il serait toujours contraire à ce dernier. Et c'est assez malheureux.
Ce qu'on entend aussi, Sarah Sialom, c'est le fait que, au vu des procédures, notamment internationales, qui sont lancées contre Benjamin Netanyahou, il n'y aurait aucune foi possible dans sa parole. À la fois, peut-être faire un point avec vous sur ces accusations, en tout cas ces procédures lancées contre le dirigeant et les dirigeants israéliens. Et est-ce que vous opérez un lien entre ces deux réalités ?
Il y a eu une très grande, je ne sais pas si c'est désinformation, mais un manque de compréhension des procédures actuellement en cours. Concernant cette procédure dont on a beaucoup parlé à la Cour internationale de justice contre l'Afrique du Sud, il faut savoir qu'il n'y a pas à proprement parler de risque de génocide qui a été reconnu. D'ailleurs, c'est assez rare pour le relever, mais même la présidente à ce moment-là de la Cour internationale de justice est venue rappeler que la Cour n'avait pas statué dans le sens d'un risque de génocide. Très clairement, ce que la Cour internationale de justice a fait, c'est juste un rappel des obligations qui sont celles d'Israël au titre de la Convention contre la répression pour la prévention du génocide. Donc, c'est pas du tout ce qu'on a pu entendre, et c'est simplement que dans un cas de conflit armé comme celui à Gaza, où on est dans un cadre urbain où les pertes civiles sont de fait, et ça a été notamment le cas en Syrie, plus importantes, rappeler ses obligations. Concernant la Cour pénale internationale, il n'y a pas eu de génocide qui a été reconnu, même pas de crime contre l'humanité d'extermination qui avait été demandé initialement par le procureur, mais que l'une des chambres de la CPI n'a pas estimé avoir assez d'éléments pour émettre un mandat sur le fondement du crime contre l'humanité d'extermination. Donc certes, est-ce que des crimes de guerre ont pu être commis ? Peut-être, de toute manière, et c'est assez triste à dire, je n'ai jamais vu de guerre sans crime de guerre, mais cela ne remet pas en question l'intégralité des opérations israéliennes, et c'est surtout le bien fondé de ces dernières. Et encore une fois, il faut absolument relever que l'Agence internationale de l'énergie atomique a relevé ses manquements et le risque qui était encouru, notamment parce que lorsqu'on enrichit son uranium dans des proportions qui sont celles de l'Iran, c'est rarement pour un usage civil et bien souvent dans un but de création d'une ogive nucléaire.
Merci beaucoup Sarah Sialam, avocate et spécialiste en droit international, d'avoir été notre invitée ce matin sur RCJ, 8h25 sur RCJ. Et hier s'ouvrait à Paris la 20e édition du Festival des Cultures Juives, avec notamment un concert d'Avishai Cohen. C'était au Théâtre du Rond-Point, une ouverture bien sûr dans des conditions bien particulières. On commence juste par revenir sur cet événement avec quelques mots du musicien.
I felt the love of the people, which is the most important thing. A lot of love.
It's in a Jewish festival.
Of course, more than ever.
Et on écoute à présent le président du Fonds social juif unifié, Ariel Goldman, le Fonds social qui organise cet événement.
D'abord, évidemment, nous pensons à toutes les familles des victimes, à toutes les familles des personnes assassinées par l'Iran cette nuit. Mais en même temps, nous avons dit il y a quelques mois, nous danserons encore. Eh bien, ce slogan, en quelque sorte, vaut aussi pour le théâtre, pour que la vie continue. Et je crois que c'est la volonté de tous que, malgré la situation tendue, malgré tout ce qui se passe en Israël, eh bien, les programmes soient respectés du mieux qu'ils le peuvent. Et c'est normal de continuer d'être là pour ce 20e festival. Alors ce 20e festival, c'est évidemment un tournant parce que 20 ans c'est un chiffre important, un tournant parce qu'il s'est passé tellement de choses pendant ces 20 dernières années et que la physionomie de la communauté en France par rapport à l'ouverture de ce festival n'a plus rien à voir. On peut espérer et former le vœu que ce festival dure encore très longtemps et qu'on se retrouve dans 20 ans. J'aimerais être sûr qu'on se retrouvera aussi nombreux, aussi enthousiastes dans 20 ans.
Et Ariel Veil, maire de Paris Centre, partenaire de l'événement.
C'est sûr qu'on est tiraillé, parce que c'est pas finalement le destin juif d'être tiraillé. On est tiraillé ce soir. Bien sûr, c'est un anniversaire qui ce soir s'ouvre comme chaque année d'ailleurs avec un spectacle, un beau spectacle avec Avishai Cohen. Et en même temps, il se fait à un moment où toutes les deux heures, les Israéliens descendent aux abris. Il y a une menace existentielle. Elle existe depuis. Certains diraient toujours, elle est ravivée depuis le 7 octobre, elle l'est encore plus depuis quelques jours maintenant, et on a tous des fils, des filles, des sœurs, des frères, des cousins qui sont en ce moment dans les abris. Il y a quelque chose peut-être de paradoxal à faire une forme de fête, à danser, à écouter de la musique, et je crois au contraire que, et on s'est posé la question d'ailleurs de l'annulation ce matin avec Ariel Goldman, président du FSJU, mais je crois qu'au contraire, on ne cesse de répéter depuis le 7 octobre. Je rappelle d'ailleurs que c'était un festival de musique, le Supernova à Réhim, We Shall Dance Again, on dansera encore, et je crois qu'il faut, avec la sobriété, avec la gravité qui s'impose, continuer à faire ce qu'on avait prévu, à célébrer la liberté, la musique, la créativité.
8h28 sur RCG, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On continuera bien sûr tout au long de cette journée à suivre la situation en Israël. Passez une belle journée malgré tout à l'écoute de notre antenne.
Vous avez plus de 60 ans et résidez sur Paris-Île-de-France, vous vous sentez seul ou vous connaissez un proche dans cette situation. Partage le programme de lien social du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Nos bénévoles sont à votre écoute et à vos côtés pour des appels et des visites de convivialité. Véritable soutien pour les aidants, nous participons à améliorer le quotidien de vos proches. Contactez-nous dès à présent au 01 42 17 11 29. 01 42 17 11 29.
RCJ, un média du Fonds social juif unifié.
et bienvenue sur Radio J. Merci de votre fidélité ce lundi 16 juin 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Toute l'actu sur Radio J.
Le journal de 8h30 vous est présenté en partenariat avec Progrès Santé, l'école référente depuis plus de 30 ans pour les formations paramédicales. En alternance ou en initiale, devenez un acteur de la santé. Informations sur progrès-santé.com, progrès-santé.com et sur Parcoursup. Progrès Santé, votre avenir professionnel commence ici.
Et toute l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le bilan des frappes de l'Iran cette nuit contre Israël. Un bébé de 4 jours a été sauvé après une frappe de missile à Tel Aviv. On l'apprend à l'instant. Par ailleurs, 3 disparus à Haïfa sont finalement déclarés morts. Un missile balistique iranien a aussi endommagé l'ambassade américaine à Tel Aviv. Et puis, le régime islamique affirme avoir pendu ce matin un homme arrêté en 2023. Un homme que Téhéran affirme être coupable d'être un agent du Mossad. En Iran, Tzal a visé une installation nucléaire à Parchin. Téhéran accuse aussi Israël d'avoir ciblé son ministère de la Défense. Le but d'Israël, c'est le nucléaire iranien, pas un changement de régime, a affirmé le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar sur CNN. Quant au ministre de la Défense Israël Katz, il affirme ce matin par rapport aux frappes du régime islamique que les habitants de Téhéran en paieront bientôt le prix. Le commandement du front intérieur maintient les restrictions au moins jusqu'à demain soir. Les écoles en Israël restent donc fermées, ainsi que toutes les entreprises, à l'exception de celles jugées essentielles. Tout rassemblement reste interdit. Quiconque vous fait du mal paiera un lourd tribut, a déclaré le chef d'état-major de Tzal hier à l'adresse des Israéliens. America's First, sur CNN ce matin, le président Trump se dit profondément sceptique quant à l'idée d'entraîner les États-Unis dans un conflit croissant à propos de l'Iran. De son côté, Emmanuel Macron a déclaré que la France n'avait pas participé aux opérations de défense d'Israël car elle n'avait pas été sollicitée. La présidente de la Commission européenne s'est entretenue hier soir avec Benjamin Netanyahou, mais Ursula von der Leyen n'appelle pas à un cessez-le-feu car pour elle, comme pour Israël, l'Iran devrait évidemment ne pas avoir l'arme nucléaire. En France, hier, Yonatan Arfi a été réélu à la tête du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Réélection qui s'inscrit dans un contexte d'augmentation massive des actes antisémites depuis le 7 octobre. Ma priorité sera de rendre résiduelle l'influence politique de LFI et de Jean-Luc Mélenchon et je poursuivrai le combat contre toutes les formes d'antisémitisme, a affirmé Yonatan Arfi.
Merci beaucoup, Eva Soto. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 9h sur Radio J.
Le journal de 8h30 vous a été présenté en partenariat avec le Collège Tikva. Collège Tikva, le premier collège trilingue à Boulogne. Renseignements Collège Tikva sur collegetikva.com 01 49 23 73 41. Collegetikva.com. Collège Tikva, parce que chaque élève est unique.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de votre fidélité. Je vous le disais, dans quelques instants, c'est l'ambassadeur d'Israël en France qui sera avec nous, Joshua Zarka, pour répondre à nos questions. Juste après, Raphaël Jérusalemi également, qui réagira à ce qui se passe en ce moment. Des nuits difficiles en ce moment pour les Israéliens. On pense évidemment à eux, à toutes les victimes, à leurs familles, à ceux qui sont bloqués, à ceux qui ne peuvent pas rentrer aussi en Israël. Je vous dis à tout de suite.
Radio J.
Radio J.
Tous les lundis, 21h, 22h.
Classico.
Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Almeta, Grégory Schneider, ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend, soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h, sur Radio J.
Radio J.
Message de Hort France. Chers partenaires, experts comptables, entreprises, en versant le solde de votre taxe d'apprentissage aux écoles Hort France, vous soutenez l'innovation, l'éducation et l'avenir de nos étudiants.
Votre contribution fait la différence. Dès le 27 mai, connectez-vous sur la plateforme Soltea et fléchez vers les écoles du réseau Hort France.
Une question ? Appelez-nous au 01 44 17 30 80 ou rendez-vous sur hort-france.fr.
ORT-france.fr.
Merci pour votre engagement. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
Merci de votre fidélité et de votre écoute. On fait évidemment le point de l'actualité en Israël, en Iran, et ce bilan déjà terrible pour Israël. On parle de 19 morts, 4 morts encore recensés en plus cette nuit. C'est Haïfa qui a été touchée, mais aussi Tel Aviv et Petah Tikva. Et pour parler de la situation, nous sommes avec l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Il est en direct par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors ce matin, le ministre israélien de la Défense, justement, Israël Katz, a averti que les habitants de Téhéran paieront le prix des frappes iraniennes sur les civils en Israël. Alors qu'est-ce que ça signifie, les habitants de Téhéran, sachant que Benjamin Netanyahou a dit que ce n'était pas justement la population iranienne qui a été visée, mais bien le régime iranien. Est-ce que vous comprenez ce message d'Israël Katz?
Les cibles n'ont pas changé, le but n'a pas changé. Nous ne comptons pas attaquer la population civile iranienne, mais par contre, nos attaques contre le régime iranien, contre les capacités militaires du régime iranien, pour être plus précis, continuent et ne vont que s'intensifier.
Alors, Israël a frappé des dépôts pétroliers, des infrastructures nucléaires. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'elle représente comme danger pour l'État d'Israël?
Alors, nous serons très clairs. Israël a frappé les capacités militaires et nucléaires iraniennes parce que ça fait déjà des années que les Iraniens, depuis la révolution, disons même, que les Iraniens disaient d'une façon catégorique que leur but était de détruire l'État d'Israël. Et non seulement ils disaient que c'était leur but, mais en plus ils développaient ces capacités de le faire. Les capacités de le faire en ayant un programme balistique très avancé et comme on le voit ces derniers jours très meurtrier, et ensuite aussi en développant des capacités nucléaires pour avoir l'arme nucléaire qui leur donnerait la capacité de détruire Israël en une ou deux bombes. C'est leur mot à eux depuis dans, et donc c'est un risque qu'Israël, l'État juif avec l'histoire que nous avons, ne pouvait pas prendre.
Est-ce que vous avez quand même un calendrier? C'est-à-dire, est-ce qu'on a une idée de combien de temps vont durer ces frappes contre les infrastructures iraniennes?
On a dit ça d'une façon assez claire dès le début. C'est une opération qui va prendre quelques semaines, un petit nombre de semaines. Je pense que la partie la plus dure est encore devant nous. Nous avons encore beaucoup de travail à faire en Iran quant aux capacités militaires et nucléaires iraniennes. Notre but est de faire en sorte qu'il n'y ait aucune capacité résiduelle nucléaire, en tout cas, entre les mains des Iraniens et que leur programme nucléaire soit remis en arrière d'un bon nombre d'années.
Eva, vous avez une question pour l'ambassadeur.
Joshua Zarka, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron affirme que la France n'a pas participé aux opérations de défense d'Israël car elle n'a pas été sollicitée. Pourquoi ?
Elle n'a pas participé parce qu'elle n'a pas été sollicitée. La France a proposé d'aider à la défense d'Israël. C'est une défense qui est organisée par un groupe de pays. Pourquoi exactement nous n'avons pas sollicité la France, l'aide de la France, c'est difficile à dire. Je dirais peut-être que, vous savez, certaines des tensions qu'il y avait eu dernièrement pouvaient peut-être nous donner le sentiment qu'il fallait quelque chose de stable, disons.
Alors, on parle justement d'Emmanuel Macron. C'est important aussi de revenir sur celle de Donald Trump. Donald Trump qui a estimé hier qu'un accord était possible avec l'Iran. Il a opposé aussi son veto à l'élimination d'Ali Khamenei. Est-ce que vous comprenez la position du président américain aujourd'hui?
Tout d'abord, sachons que nous n'étions pas opposés à l'option diplomatique. Bien au contraire, ça fait déjà 25 ans que la communauté internationale essaie de négocier avec les Iraniens afin que ceux-ci arrêtent leur programme nucléaire et se l'ouvrent complètement aux instructions de l'AEA. Ensuite, les États-Unis nous sont venus, disons, à notre aide dès le début. La défense aérienne, la défense contre les missiles iranien venant justement du territoire iranien est une défense commune israélienne et américaine et peut-être même, je dirais, d'autres pays. Et donc les Américains sont venus et sont là auprès de nous dès le début, bien sûr dans ce qui est de la défense contre l'agression iranienne. Pour ce qui est de l'option diplomatique, vous savez, dans chaque dans chaque événement militaire, les événements militaires sont généralement le résultat d'un échec diplomatique. D'un échec diplomatique dans ce cas, dans le cas de l'Iran, qui il y a après 25 ans de négociations qui n'ont mené à rien du tout. Donc, il y a l'utilisation de l'option militaire. Et après cela, quand nous aurons atteint nos buts militaires, il y aura besoin éventuellement d'un événement diplomatique qui permettra la clôture totale de cet événement. Et donc, je pense que c'est de cela que parle le président américain.
Alors peut-être un dernier mot, il nous reste peu de temps, mais c'est important de parler aussi de ce qui se passe en France. Peut-être aujourd'hui, on sait que l'Iran menace partout, en Europe, en France. Le risque terroriste est bien présent. C'est important justement pour vous de dire que ce régime iranien représente une menace pour Israël, certes, mais aussi une menace pour les Juifs du monde entier et bien plus encore.
Ce régime est un régime qui est derrière la déstabilisation de tout le Moyen-Orient. C'est le régime à cause duquel nous n'avons pas la paix aujourd'hui avec nos voisins. C'est un régime qui a pour but de déstabiliser non seulement le Moyen-Orient, mais d'aller beaucoup plus loin. C'est la raison pour laquelle ils développent des missiles qui non seulement pourraient arriver, aujourd'hui ils ont des missiles qui peuvent arriver jusqu'en Italie, en Grèce, ils développent la capacité d'avoir des missiles qui pourraient déposer une arme nucléaire jusqu'à Paris ou même Londres. Alors donc, un régime qui fait tant d'efforts pour justement avoir tant de capacités n'est pas un régime pacifique. Clairement, leur but est d'augmenter leur influence globale en déstabilisant. Et non seulement cela, mais aussi, nous savons très bien que l'Iran, depuis presque la révolution, je dirais même, utilise le terrorisme comme une arme légitime. Ils ont utilisé le terrorisme ici en France en 2018 et en 2019. Ils l'ont fait en Allemagne contre les institutions de la communauté juive il n'y a pas trop longtemps. Et nous savons que nous, diplomates israéliens, nous sommes toujours une cible du terrorisme iranien.
Merci beaucoup Joshua Zarqa, ambassadeur d'Israël en France. Merci d'avoir réagi ce matin sur Radio J. On vous retrouve régulièrement. Je vous dis à très bientôt.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre ce matin et nous sommes à présent en ligne en direct comme chaque lundi matin avec Raphaël Jérusalmi, analyste défense sur la chaîne I24 News, sur la chaîne LCI et sur Radio J toutes les semaines. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez d'entendre l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarqa, le dire. La menace de l'Iran, elle est globale, elle est mondiale. Ce n'est pas seulement une menace pour Israël, mais aussi pour le monde. Vous confirmez ce regard-là, Raphaël ?
Oui, absolument. Et d'ailleurs, les officiers de l'armée française, marine et armée de l'air française, n'attendent que le feu vert de leur gouvernement pour faire le boulot. Tout le monde a très bien compris que la menace qui pesait sur Israël et la déstabilisation du Proche-Orient était aussi une menace mondiale pour l'économie d'abord, avec le pétrole, avec les problèmes dans le golfe Persique et la mer Rouge, pour la sécurité de tous les citoyens à travers le monde à cause du terrorisme. Et je rappelle que les ambassades iraniennes sont des hangars où on entrepose des armes et des explosifs, ou que la moitié du personnel diplomatique, entre guillemets, iranien dans une ambassade inclus à Paris, sont des espions, des gardiens de la révolution. Nous avons affaire à un État terroriste et je ne comprends absolument pas pourquoi, par exemple, la France est si hésitante et si frileuse à faire le boulot.
Ouais, vous comprenez pas cette position d'Emmanuel Macron qui dit qu'il n'a pas été consulté, mais en même temps qu'il ne fait pas vraiment non plus d'efforts pour essayer d'aider Israël, c'est ça ?
Absolument, et alors il fallait que les Polonais demandent aussi à la France son aide lorsqu'ils ont été envahis par l'Allemagne en 1939, c'est ridicule. Il y a ici une menace claire et précise qui concerne, je le dis, la France à peut-être plus long terme et plus longue portée de missiles que Israël, d'accord, mais elle est quand même là, cette menace. Et puis en plus, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas envie de défendre le monde libéral, la démocratie, face à la montée de l'islamisme? Qu'attend-il pour le faire?
On va revenir sur ce qui se passe sur le terrain, mais Eva, vous avez une question pour Raphaël.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Est-ce qu'Israël est seul, malgré le fait que l'Iran représente une menace pour le monde entier? Ce matin, on apprend que des correspondants de CNN à la Maison-Blanche rapportent que le président Trump, en personne, est profondément sceptique quant à l'idée d'entraîner les États-Unis dans un conflit qui s'intensifie.
Le président Trump s'est parlé haut et fort, mais il n'a pas vraiment autant de cran quand on en vient aux choses véritablement sérieuses et parfois même un peu risquées. Israël sait prendre des risques, Israël fait ce qu'il y a à faire, le Donald Trump se dégonfle souvent après avoir lancé des menaces presque apocalyptiques sur ses ennemis. Je pense qu'en ce moment, il est surtout hésitant, car d'un côté, il n'a pas envie de s'impliquer dans ce conflit. D'un autre côté, il laisse à Israël toute la gloire de renverser peut-être le régime des ayatollahs, ou en tous les cas, de détruire le programme nucléaire. Donc Israël, ce tout petit pays, à lui seul, aurait cette victoire incroyable, cette victoire historique, hein, ces changements de la donne complet, et les Américains n'auraient rien fait. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de se tâter pour rentrer dans la danse au dernier moment. S'il voit que nous allons gagner, il va rentrer dans la danse au dernier moment, tirer une balle et dire « Regardez, on était avec les Israéliens, c'est grâce à nous ». Je rappelle que nous avons besoin des Américains pour deux choses. La première, c'est qu'il y a certaines cibles qu'on ne peut pas détruire si nous n'avons pas ou l'aide des Américains physiquement en combattant, ou le matériel qu'ils pourraient nous donner. Et ce sont des bombes très très lourdes avec des bombardiers B-2 et B-52. Et nous avons aussi besoin des Américains pour terminer le conflit. C'est-à-dire, lorsqu'on aura fait notre travail, il n'y aura pas de drapeau blanc levé par Khamenei, il n'y aura pas de négociation entre Israël et l'Iran. Par contre, il y aura, et à ce moment-là, effectivement, Washington qui va rentrer comme pacificateur et qui arrangera un cessez-le-feu et un accord de non-guerre. Donc, on a quand même besoin des Américains.
Alors, on parle d'Ali Khamenei, justement, qui, en ce moment, se cacherait avec sa famille dans un bunker, donc au milieu des frappes israéliennes. Des sources iraniennes indiquent qu'Israël a épargné, justement, le guide suprême pour lui donner une dernière chance de démanteler le programme iranien d'enrichissement de l'uranium. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que représenterait cette élimination d'Ali Khamenei ?
Alors, au début, il a été épargné aussi parce que c'était une adresse, si on veut terminer le conflit, il faut avoir quelqu'un en place à Téhéran pour signer les documents de cessez-le-feu. Et donc, on laisse en place une figure politique quelconque. Hein. Khamenei, ça peut être aussi quelqu'un d'autre. Si on trouvait quelqu'un d'autre, ça pourrait être le président iranien. Donc, on a donné sa chance, en fait, à Khamenei d'avoir une sortie honorable de ce conflit, d'abandonner son programme nucléaire, auquel cas nous aurions cessé le feu. Il n'a pas obtempéré. Aujourd'hui, il est donc dispensable, jetable, et je pense que c'est une question de temps avant qu'il soit éliminé.
Oui, parce que certains disent que ça pourrait alors ou renforcer le régime iranien ou l'affaiblir. Ce matin, Christophe Barbier, notre éditorialiste politique, disait que ça pouvait aussi l'affaiblir, d'éliminer le responsable en chef du régime iranien. Pour vous, ça va affaiblir le régime, tout simplement parce que après la hiérarchie, l'état-major iranien sera un peu perturbé, c'est ça ?
Et c'est surtout que ça encouragera encore plus l'opposition à passer à l'action.
C'est ça, ouais.
Ça sera un message clair et fort qui encouragera l'opposition.
Alors, on revient typiquement sur ce qui se passe sur le terrain. Ce matin, on l'a dit, ce sont 90% des frappes iraniennes qui ont été interceptées, ce qui est quand même énorme, mais il y a quand même 10% d'échecs. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, justement, Raphaël ? On sait que ce sont des vieilles personnes, notamment, qui ont été tuées dans ces frappes. Ce sont des personnes qui n'ont pas pu se joindre à temps les abris antimissiles ?
Alors, on doit féliciter, bien sûr, la défense antiaérienne israélienne et américaine, d'ailleurs, qui s'est jointe, et britannique. Mais on doit aussi féliciter la population israélienne dans sa discipline, dans la suite des consignes qui lui sont fournies, des consignes qui sont de plus en plus précises, de plus en plus efficaces. Avec, on a maintenant jusqu'à une demi-heure, parfois, de temps pour s'organiser, pour se préparer à une attaque de missile. D'un autre côté, il n'y a pas de sécurité à 100%, rien n'existe à 100%. Il faut donc suivre les consignes. Ce qui est tragique, c'est que nous rentrons dans une routine de guerre tout à fait différente de ce que nous avons subi les mois précédents, car A, l'annonce ici et là de soldats de Tsahal tombés au combat vient se joindre maintenant le nom des victimes civiles chez eux, à la maison, des tirs iraniens. et c'est effectivement très dur psychologiquement pour les Israéliens.
Deux Israéliens soupçonnés d'espionnage pour l'Iran ont été par ailleurs arrêtés ces dernières heures. Ils sont actuellement interrogés par le Shin Bet et la police. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit, est-ce que c'est quelque chose qui est isolé, c'est un cas isolé, ou c'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup dans ce contexte?
Alors d'abord, espionnage, c'est un grand mot. Hein. Ils sont allés faire un tour près d'endroits où on leur a demandé. Ils ont pris trois photos et c'est tout. C'est pas vraiment des espions qui menacent la sécurité vraiment d'Israël. Ils sont recrutés sur TikTok, sur Instagram. C'est souvent des gens très facilement influençables. On leur donne un peu d'argent s'ils sont fauchés. C'est pas James Bond. Hein. Et donc, effectivement, il y a des gens qui sont influençables, qui sont recrutables. Mais bon, c'est quand même une vaste blague par rapport aux capacités du Mossad sur le sol iranien. Les Iraniens sur le sol israélien sont complètement neutralisés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils sont tellement désespérés qu'ils recrutent par TikTok en offrant des bonbons à des enfants de 13 ans. Là, ils ont recruté dernièrement un enfant de 13 ans qui s'est laissé prendre au piège.
Une dernière question, Raphaël, et c'est un petit peu la même question que j'ai posée à l'ambassadeur d'Israël en France. Est-ce qu'on a un calendrier de ce qui va se passer là dans les prochains jours, un agenda, les frappes, sur combien de temps vont-elles se poursuivre, sur combien de jours? Est-ce qu'on a une idée?
Alors, militairement, ça va durer un certain temps, et on n'a pas d'estimation, que ça va dépendre de la réussite des opérations. Mais il va falloir, à mon avis, encore au moins 2-3 semaines, parce que l'Iran, même si nous sommes en train de battre, on va rentrer dans le livre des records de Guinness pour à peu près tout ce qui est possible et faisable sur le plan des actions militaires, distance, portée, exactitude chirurgicale, et j'en passe. Mais nous avons affaire à un État puissant, avec une armée importante, dotée d'équipements sophistiqués. Ça prend du temps, et on estime entre 5 et 10 000 les cibles qui sont dans les banques de cibles de Tzal. Donc on en a détruit déjà peut-être plusieurs centaines, mais on est encore loin, au moins des 5 000 qu'on doit détruire pour atteindre l'objectif militaire. À quoi se joint l'objectif politique, qui va dépendre de ce qui va se passer à l'intérieur même de l'Iran? Allons-nous réussir à offrir au peuple iranien, nous en sommes en train de le faire, l'occasion, c'est l'occasion qu'ils n'ont jamais eue, d'être aussi proche de pouvoir renverser le régime.
Eh bien, on suivra tout cela avec vous. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalmi, d'avoir réagi ce matin. On vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Merci.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J. Nous sommes à présent en studio, en direct, toujours avec Corinne Lepage, ancienne ministre. Bonjour Corinne.
Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors vous l'avez entendu, on en a parlé avec l'ambassadeur, on en a parlé avec Raphaël. Quel sentiment peut-on avoir à l'égard de ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre l'Iran et Israël?
Je pense qu'il y a, à mon sens, trois sentiments. Le premier, c'est un soulagement. Parce qu'effectivement, la menace nucléaire iranienne est vitale, est existentielle, et on sentait bien qu'il fallait faire quelque chose. Ouais. Donc je pense qu'il y a un soulagement. Ensuite, il y a une grande angoisse. Il y a une grande angoisse parce que, effectivement, le dôme de fer est efficace, mais pas à 100%. Donc il y a des victimes civiles. Et puis, quand on entre dans un engrenage de ce genre, on sait comment on en entre, on sait jamais comment on en sort. Donc il y a incontestablement une angoisse qui se double de la capacité des Iraniens à faire des attentats et donc d'une menace, je dirais, assez large sur toute la planète, évidemment sur la communauté juive, mais pas que. Et puis, troisièmement, un sentiment de lâcheté.
Ouais.
Très franchement, c'est assez écœurant de voir la manière dont les pays occidentaux et d'autres, parce que je pense que les pays du Moyen-Orient... Arabie Saoudite, Émirats, etc., ouais. C'est la même chose, sont extrêmement contents, satisfaits de ce que fait Israël, mais se gardent bien l'aider, sauf les Américains et les Anglais qui aident apparemment à la défense. Les Français ne sont même pas capables de faire ça. Voilà, donc, très franchement, beaucoup d'autres l'ont dit avant moi, mais il y a quand même un sentiment de lâcheté.
Ouais.
C'est assez écœurant.
Sentiment mitigé pour vous. Il s'agit d'un événement majeur quand même, selon vous, Corinne.
Alors, on ne sait pas comment ça va se terminer. Je dirais qu'il est déjà majeur, il pourrait être historique. Il est déjà majeur, pourquoi ? Parce que, avec cette affaire d'Iran, Israël est quand même arrivé à ressouder un peu le camp occidental. Gaza reste le problème de Gaza, avec toutes les difficultés, et toutes les interrogations et tous les déchirements que l'on peut avoir à ce sujet, mais il n'en demeure pas moins que là, on est sur un sujet géopolitique majeur qui a ressoudé le camp occidental et montré finalement le peu de soutien dont les Iraniens bénéficient sur la scène internationale. Certes, la Chine et la Russie ont dit que c'était pas bien, mais ça s'est arrêté là. Le Hezbollah n'a pas bougé, la Syrie, le Liban n'ont pas bougé, et les pays arabes ont dit c'est pas bien, mais ça s'est arrêté là. Donc il y a un équilibre des forces qui, me semble-t-il, a changé. Ça serait historique si deux événements se passaient. Bien sûr, si ça entraînait la chute des Mollahs. J'ai vu sur les réseaux, alors je ne sais pas si c'est confirmé ou pas, mais qu'Elon Musk aurait remis en place les satellites pour que les Iraniens qui sont privés d'Internet depuis 3 jours puissent communiquer. Et donc, je ne sais pas si l'information est
vérifiée.
Mais ouais. Si c'est le cas, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça permet à la société civile de s'organiser. Reza Pahlavi a lancé un appel, c'est-à-dire le fils du Shah a lancé un appel pour que la société civile entre dans la désobéissance civile. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui se passent. Ça, ce serait évidemment historique, parce que, comme on le dit souvent, l'Iran, c'est la tête de tout. Le deuxième point, c'est si on arrive effectivement à dégommer complètement l'arsenal iranien.
Alors, il nous reste très peu de temps, Corinne. On en a parlé brièvement de cette lâcheté, comme vous dites, de la part des pays occidentaux. Que dire de la position européenne et surtout française, rapidement ?
Très rapidement, européenne, pour l'instant, il n'y en a pas.
Oui. Bon, il y a une réunion demain, on sait qu'il y a une réunion.
Oui, d'accord. Ouais. Enfin, ça a commencé vendredi, on est lundi, une réunion mardi qui va... parce que les Européens n'arrivent pas à avoir une position uniforme sur le sujet, ce qui est un vrai problème. Bon, quant à l'opposition française, franchement, ce n'est pas des sujets sur lesquels on peut être en même temps. On est d'un côté ou on est de l'autre, c'est binaire. Alors, je veux bien que le président de la République essaye de dire que la position française doit être une position médiatrice... elle ne le sera pas parce que Israël n'acceptera probablement pas ce cas de figure. Mais très franchement, le discours de vendredi était plutôt pas mal. Le retour en arrière d'hier, très franchement, c'est problématique.
Eh bien, merci beaucoup Corinne Lepage. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour ce regard sur l'actualité. On vous retrouve chaque lundi matin, toujours avec grand plaisir. Merci.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
C'est la fin de cette première édition sur Radio J. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver évidemment nos chroniques et nos interviews en podcast sur radioj.fr et sur notre chaîne YouTube, notamment l'interview de l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarqa, Raphaël Jérusalemi, et puis tout ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à nous demander, à contacter Radio J. Nous sommes là pour répondre à toutes vos sollicitations. Vous restez avec nous comme tous les matins. Dans quelques instants, nous allons retrouver avec bonheur, avec joie, avec gentil, comment dire, avec,
avec respect,
avec respect, avec ah, j'ai pas le mot, comment on dit quand on parle de cuisine avec de j'ai pas le mot, avec
je ressemble à du gefilte fish, c'est ça. Bon,
j'en perds mes mots en vous regardant, vous me troublez. Léa Moscona,
bonjour Ilana, bonjour à tous,
ça va bien?
Écoutez, ça va comme ça,
je me délecte.
C'est gentil.
En tout cas, eh bien, écoutez, on a à peine 5 secondes
dans un instant,
on se dit bonjour. Et à tout de suite.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Les cultures juives, ça se défend. Et les CUJ aussi. Soutenir les CUJ, c'est transmettre la richesse des cultures juives, lutter contre l'ignorance et renforcer une vie juive libre, ouverte et accueillante. Les 15 et 16 juin, on compte sur vous pour la première grande campagne d'appel aux dons de les CUJ.
Et votre impact est doublé.
Oui, oui, chaque don compte double.
Double.
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin sur allodon.fr/ecuj. Facile, allodon.fr/ecuj.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio J en ce lundi 16 juin. Il est 9h. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Je vous souhaite une excellente